Les séminaires du Collège de France.
Bien, alors j'ai le très grand plaisir d'accueillir pour notre première séance du séminaire qui donc va poursuivre nos réflexions sur la nature humaine, Jérôme Dokisch. Jérôme est directeur d'études à l'École des hautes études et en sciences sociales. Il est membre de l'Institut Jean Nicot qui fait donc partie de PSL. Et il est évidemment inutile de présenter Jérôme, qui a souvent parlé d'ailleurs dans le cadre de mes travaux. Juste pour rappeler que son domaine de recherche est aussi vaste qu'il manifeste une érudition exemplaire, puisque si on peut présenter Jérôme comme un philosophe de l'esprit et des sciences cognitives, il faut tout de suite ajouter que ce sont des questions très classiques qu'il aborde, l'indexicalité, la cognition située, la perception, la mémoire et l'imagination. Et il le fait avec une perspective éminemment originale, en mettant notamment l'accent sur la phénoménologie affective qui accompagne notre expérience ordinaire du monde, en tant qu'elle implique des sentiments de présence. Il a beaucoup travaillé sur ces questions de familiarité, de confiance et de leurs opposés. Un deuxième aspect très important de ces travaux porte sur la relation entre les états mentaux et le soi, autre question éminemment classique et importante, et il le fait en insistant sur ce qu'on appelle la dimension perspectivale de la perception, de l'imagination et de la mémoire. C'est donc, si vous voulez, il aborde les choses en essayant de mieux comprendre le rôle que joue notre point de vue, ou plus exactement le point de vue qui se dégage de nos états mentaux. Par exemple, les différences de perspective mentale qui se jouent entre les souvenirs en première et en troisième personne. Pour mentionner parmi ces différents centres d'intérêt un autre volet, c'est aussi celui de la perception en ses dimensions sociales, telles qu'elles se manifestent par exemple dans les affordances sociales, c'est-à-dire les occasions que nous pouvons percevoir ou dont nous pouvons en tout cas envisager de percevoir, d'agir ensemble. Je suis donc particulièrement impatiente de voir la perspective ou le point de vue qui l'intéresse le plus. C'est le suspense, parce qu'il ne m'en a pas parlé du tout, en relation avec la question qui nous occupe. Et donc, cher Jérôme, comment ne pas être intéressé? Le désintéressement esthétique et épistémique. Je te laisse bien volontiers la parole.
Merci beaucoup Claudine pour cette introduction et pour l'invitation. Là, je suis très heureux d'intervenir. Alors je vous prie d'excuser le caractère un peu rébarbatif en effet du titre que j'ai dû donner un peu vite. J'aurais pu trouver peut-être quelque chose de plus attrayant, mais vous allez voir que c'est un titre qui dit exactement en quelques mots ce que je vais essayer de présenter dans cet exposé. Comment ne pas être intéressé? Il y a un point, hein, j'aurais pu mettre éventuellement un point d'interrogation, comment ne pas être intéressé, mais vous allez voir que l'exposé porte sur cette notion de désintéressement qui peut-être, ou peut-être pas, caractérise une certaine façon d'entrer en relation avec le monde et éventuellement un état ou une attitude qui est à partie liée avec notre nature humaine. Ben, on en parlera un tout petit peu, évidemment, dans ce qui suit de nature humaine, puisque c'est l'objet du cours de Claudine Tiercelin cette année. Voilà, comment ne pas être intéressé? Le désintéressement esthétique et épistémique, puisque ce qui m'intéresse, vous allez voir, ce sont des interactions entre des expériences et des attitudes dans le domaine esthétique, d'un côté, et épistémique, dans le domaine de, qui a trait à la connaissance, à l'enquête, etc., à la compréhension de l'autre. Alors, je vais lire un texte, mais j'ai quelques diapos pour illustrer quelques citations et un argument qui va m'occuper pour une partie de l'exposé. Donc, je commence. Les analogies et tentatives de rapprochement entre les valeurs esthétiques et les valeurs épistémiques, dont les paradigmes sont respectivement la beauté, du côté épistémique, du côté esthétique évidemment, et la vérité du côté épistémique, sont presque aussi anciennes que la philosophie elle-même. Aujourd'hui, la littérature sur le rôle des valeurs, des expériences et des jugements esthétiques dans l'enquête scientifique est en plein essor. Cet exposé va porter plus spécifiquement sur le rôle que jouent les sentiments épistémiques dans l'expérience esthétique que nous pouvons avoir d'une œuvre d'art ou d'une scène naturelle, et qui nous fait dire qu'elle est, par exemple, belle ou sublime. Donc c'est une certaine conception de l'expérience esthétique que je vais en réalité un peu présupposer ici, en tout cas dans un premier temps, une expérience esthétique qui peut porter sur l'art, mais aussi sur la nature, et pourquoi pas sur des objets ordinaires. Je n'ai pas de religion particulière à défendre ici, sur ce point, dans cet exposé. Par sentiment épistémique, j'entends une expérience que je conçois comme étant de type affectif, donc quelque chose qui est de l'ordre d'une émotion ou d'un sentiment, comme vous voulez, qui fait essentiellement intervenir une valeur ou une propriété pertinente pour la connaissance et l'enquête. Donc parmi les sentiments épistémiques sur lesquels je vais me pencher ici, j'inclus la surprise, l'étonnement, l'émerveillement, l'intérêt, la curiosité, dont il sera un peu question, l'incertitude, la confusion, pour le côté négatif. Hein. Les sentiments épistémiques ont une valence, comme on dit, hein. Il y a des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Et plus généralement, je vais considérer l'éventail des variations phénoménologiques autour de la familiarité et de l'étrangeté. Ce qui nous est familier, ce qui nous l'est moins, ce qui nous est étranger, étrange, etc. De nombreux auteurs et artistes ont relevé l'implication des sentiments épistémiques dans l'expérience esthétique. Par exemple, bon, je donne un exemple très connu, Baudelaire est célèbre pour avoir souligné l'élément d'inconnu et de mystère que, selon lui, la beauté nous présente invariablement. Selon ses propres termes, mais c'est une citation évidemment très connue, « Le beau est toujours bizarre », nous dit Baudelaire. Je ne veux pas dire qu'il soit volontairement froidement bizarre, car dans ce cas, il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. C'est son immatriculation, sa caractéristique, renverser la proposition et tâcher de concevoir un beau banal. Donc en 1868. Alors, je ne vais pas défendre une quelconque position que Baudelaire aurait pu articuler au sujet des relations entre l'expérience du beau, qui est une expérience esthétique, et le sentiment d'inconnu ou de mystère que le beau évoque, d'après Baudelaire. Mais voilà, c'est une illustration effectivement d'un auteur parmi beaucoup d'autres qui ont considéré que les sentiments épistémiques jouent un rôle important dans l'expérience esthétique en général et dans l'expérience de la beauté en particulier ici pour Baudelaire. Alors, la thèse principale de mon exposé est que les sentiments épistémiques ne sont pas des aspects contingents ou périphériques de l'expérience esthétique, mais qu'ils en sont constitutifs. Essentiel, si vous voulez. Et cette thèse peut être interprétée de deux manières différentes. D'une part, on pourrait affirmer que l'expérience esthétique elle-même, hein, comme une expérience, comme un tout, est un sentiment épistémique ou un type de sentiment épistémique. Ça, ce serait effectivement la première question qu'on peut se poser, la question de savoir si l'expérience esthétique est elle-même un sentiment épistémique. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Deuxièmement, même si l'expérience esthétique n'est pas un sentiment épistémique, c'est-à-dire si on répond par la négative à la première question ici sur cette diapositive, on peut se demander si certaines de ses parties propres, les parties qui la composent, pourraient être des sentiments épistémiques. Et en fait, vous allez voir, c'est seulement la seconde proposition que je vais défendre ici. En fait, je vais donner quelques arguments pour considérer que l'expérience esthétique ne peut pas être un sentiment épistémique. Par contre, je pense que les sentiments épistémiques jouent un rôle constitutif en tant que partie nécessaire de l'expérience esthétique. Ou en tout cas, certaines d'entre elles. Après, on pourra peut-être en discussion, peut-être revoir la portée de la thèse que je cherche à défendre ici. Alors, juste un mot sur la première proposition, à savoir que l'expérience esthétique serait un sentiment épistémique. Certains auteurs, à l'instar par exemple de Jesse Prince, ont défendu la thèse, affirment que l'émerveillement ou l'étonnement, en anglais le mot est wonder, constitue en quelque sorte la matrice de l'expérience esthétique. Dans des travaux récents, apparemment il a un petit peu changé d'avis, semble-t-il, mais dans des travaux récents, il essaye de montrer que ce qu'on peut traduire par l'émerveillement ou l'étonnement est l'émotion impliquée dans toutes nos expériences esthétiques. Alors cette affirmation se heurte à plusieurs obstacles, d'après moi. L'un d'entre eux a trait à ce qu'on pourrait appeler le pluralisme esthétique. L'expérience esthétique se présente sous des formes variées et il n'est pas évident qu'un seul type, un seul genre d'émotion, de sentiment puisse rendre compte de l'éventail de nos expériences de la beauté, de nos expériences esthétiques, qui incluent nos expériences de la beauté, mais aussi, par exemple, du joli ou du sublime. Donc ce n'est pas évident qu'il y ait effectivement un seul sentiment épistémique ou une seule émotion épistémique qui rend compte de la variété, si vous voulez, de toutes les figures de l'expérience esthétique. Par ailleurs, les expériences esthétiques impliquent souvent des émotions négatives. Et peut-être même pour Baudelaire, toutes les expériences esthétiques implique des émotions négatives. Après tout, le sentiment d'inconnu, le sentiment de mystère, ce n'est pas nécessairement un sentiment plaisant. C'est un sentiment qui nous pousse à enquêter sur ce que nous ne connaissons pas ou ce qui, éventuellement, nous procure un sentiment de mystère. Mais d'autres émotions négatives sont impliquées dans nos expériences esthétiques, y compris la peur, le dégoût, l'horreur. Burke disait que dans l'expérience du sublime, qui est une expérience esthétique en un certain sens, il y a quelque chose comme une forme d'horreur, ou en tout cas de peur, qui est une émotion négative. Mais d'un autre côté, l'émerveillement semble être une émotion essentiellement positive. Donc effectivement, la thèse de Prince, d'après laquelle, donc, je le rappelle, l'émerveillement constitue le cœur de l'expérience esthétique, doit rendre compte... Évidemment, c'est quelque chose qu'il essaye de faire, mais doit rendre compte de la dimension négative que certaines expériences esthétiques présentent. Les auteurs en question, enfin Jesse Prince et d'autres, ses collaborateurs, Jörg Fingerhut par exemple, prétendent que l'émotion associée au sublime, alors l'émotion associée au sublime en anglais, elle est lexicalisée. L'anglais a le mot awe, A-W-E, qui désigne une émotion, ou en tout cas une expérience affective, associée au sublime, à l'expérience du sublime. Des paysages, des orages, les cimes des Alpes, etc. Qu'on pourrait traduire par un mélange de crainte et d'admiration. Donc les auteurs en question essayent de montrer que le haut, cette émotion associée au sublime, est une espèce d'émerveillement, est une espèce du wonder. Donc le wonder serait le genre et puis O serait l'une des espèces du Wander. Mais, bon, là, je ne peux pas m'attarder là-dessus, mais on peut revenir dans la discussion. Comme j'ai essayé de le montrer dans d'autres travaux en collaboration, ce point reste fortement controversé. Et donc, je pense qu'on peut défendre une forme de pluralisme esthétique, en tout cas à propos du beau et du sublime. Alors, mon exposé comporte trois parties. C'est le séminaire de Claudine Tiercelin, donc il y a bien trois parties. Dans la première partie, je voudrais évoquer un autre obstacle qui se dresse contre l'assimilation de l'expérience esthétique à un sentiment épistémique. Donc, un autre argument, si vous voulez, contre cette assimilation qui ne repose pas sur le pluralisme esthétique, mais sur, vous allez voir, une considération assez différente. Alors, cet obstacle tient au fait que l'expérience esthétique est véritablement désintéressée, contrairement au sentiment épistémique. Une caractérisation de la notion de désintéressement sera proposée qui s'applique à la première, c'est-à-dire à l'expérience esthétique, mais pas au second, c'est-à-dire au sentiment épistémique, même lorsque, comme la curiosité, ces sentiments sont définis par une forme intrinsèque de motivation. Je vais expliquer évidemment tous ces termes. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, je soutiendrai que le désintéressement propre à l'expérience esthétique résulte d'une interaction dynamique entre des sentiments épistémiques liés à la familiarité et à l'étrangeté. Alors évidemment, il y a une prétention à l'universel. Je dis l'expérience esthétique. Vous allez voir que, évidemment, je ne peux pas parler de toutes les expériences esthétiques. Je vais essayer de reparler un petit peu de la distinction entre le beau et le sublime du point de vue des sentiments de familiarité et d'étrangeté. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours considérer que ma thèse s'applique à un sous-ensemble intéressant, en tout cas l'expérience esthétique et peut-être pas à l'expérience esthétique en général. Dans une troisième et dernière partie, j'examinerai l'objection selon laquelle, si l'expérience esthétique est désintéressée au sens qui aura été proposé, dans la première partie en l'occurrence, elle ne peut pas impliquer l'attribution d'une valeur esthétique à son objet. Et pour certains, c'est une objection parce que l'expérience esthétique doit être nécessairement évaluative, elle doit nécessairement comporter une évaluation en termes esthétiques d'un objet, objet au sens philosophique. C'est une scène, ça peut être un objet temporel, un objet spatial, un paysage, etc. Et pour finir donc cet exposé, je répondrai à l'objection à partir d'une conception stratifiée ou comme je l'appellerai componentielle, je ne sais pas si c'est du bon français, de l'expérience esthétique. Alors, j'aborde la première partie de l'exposé après cette introduction et je vais commencer par examiner un argument que nous pouvons appeler l'argument du désintéressement. C'est un argument très simple, il est valide. La question est de savoir si ces prémices sont vraies. Donc la première prémisse, c'est la prémisse selon laquelle l'expérience esthétique est désintéressée. Et évidemment, il faudra définir cette notion. La deuxième prémisse, c'est la prémisse selon laquelle les sentiments épistémiques ne sont pas désintéressés, et pour moi ça veut dire simplement qu'ils sont intéressés, donc l'intéressement et le désintéressement sont des contraires, même des contradictoires en fait. Par conséquent, l'expérience esthétique n'est pas un sentiment épistémique. Donc ça c'est l'argument du désintéressement pour marquer la différence entre l'expérience esthétique et les sentiments épistémiques. Et je rappelle, si je reviens tout petit peu en arrière, si cet argument est non seulement valide, mais sain, c'est-à-dire si ces prémisses sont vraies, alors évidemment, on a le droit de répondre négativement à la question de savoir si l'expérience esthétique est elle-même un sentiment épistémique. Alors, la notion de désintéressement est un thème central de l'esthétique philosophique, depuis longtemps, surtout depuis Kant. Elle exprime l'idée selon laquelle, succinctement, l'expérience esthétique appréhende son objet pour lui-même et non pas sous l'aspect de son utilité réelle ou supposée. Voici comment un auteur récent, Gerald Levinson, formule cette idée qu'il applique à l'attention esthétique, qui est une forme d'expérience esthétique. Kant lui-même, peut-être, vous vous en souvenez, l'applique au plaisir esthétique. C'est le plaisir esthétique qui est désintéressé pour Kant. Il y a des nuances importantes ici. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de m'y attarder. Peut-être il faudra le faire un peu plus tard. Donc Levinson nous dit, dans un article qui est consacré à précisément la définition de l'expérience esthétique, Gerald Levinson nous dit, je cite, par attention esthétique, nous entendons l'attention portée sur les formes et les propriétés perceptibles d'un objet pour elle-même. Alors la traduction, c'est la traduction, je pense, standard de l'expression anglaise « for their own sake », dans leur propre intérêt, on pourrait dire, et dans leur pleine individualité, en dehors de l'utilité d'une telle attention. D'ailleurs, soit dit en passant, parfois « for its own sake » ou « for their own sake » est parfois traduit par « pour le plaisir ». C'est intéressant, c'est pas une bonne traduction évidemment, mais c'est intéressant dans la perspective de ce qui va suivre. Alors, la formulation de Levinson n'exclut pas que l'objet esthétique, soit par ailleurs utile ou représenté comme tel, indépendamment de l'expérience esthétique que nous en avons. Donc l'objet esthétique peut être utile, simplement quand nous en avons une expérience esthétique, eh bien, l'objet n'est pas représenté sous l'aspect de son utilité. La formulation, donc, établit plutôt que l'expérience esthétique elle-même, en vertu de son essence, si on peut dire, ne présente pas son objet comme étant utile. Je viens de le dire. Par ailleurs, même si la formulation de Levinson est un petit peu moins claire sur ce point, l'utilité de l'expérience elle-même, indépendamment de celle de son objet, n'est pas non plus exclue. Il se pourrait qu'une expérience esthétique soit, dans certains contextes, utile. Comme lorsqu'un critique d'art juge utile de porter une attention esthétique à une œuvre d'art avant de rédiger un texte, un essai sur cette œuvre d'art, par exemple. Donc vous trouvez cette expression « for its own sake »,« for their own sake », dans l'idée qu'on considère un objet pour lui-même et non pas parce qu'éventuellement il nous serait utile. On voit qu'effectivement ça exclut un certain nombre d'expériences clairement intéressées. Si j'ai faim ou si j'ai soif et j'ai un verre d'eau devant moi, je peux avoir une expérience intéressée de ce verre d'eau, c'est-à-dire je représente ce verre d'eau en fonction de sa capacité à étancher la soif. Donc c'est bien la valeur utilitaire, si vous voulez, du verre d'eau que je représente quand je le vois et je m'apprête à boire. Mais ce qui est remarquable, c'est que les termes dans lesquels la notion de désintéressement est souvent exprimée ont été également appliqués aux sentiments épistémiques, ou du moins à certains d'entre eux, comme la curiosité. Et souvent, je vais prendre la curiosité comme un paradigme dans cet exposé d'un sentiment épistémique, puisque c'est justement cette comparaison qui m'intéresse entre l'expérience esthétique et la curiosité. En réalité, même si un certain nombre des propos que je vais avoir probablement s'appliquent à d'autres sentiments épistémiques. Par exemple, je vous ai ici sélectionné deux citations. L'une de Paul Sylvia. Alors Paul Sylvia, c'est un psychologue qui a beaucoup écrit sur les sentiments épistémiques, et en particulier, pas seulement, mais en particulier dans le domaine esthétique. Donc évidemment, c'est un auteur important pour moi, puisqu'il est intéressé ici, comme moi, à l'intersection, aux intersections possibles, entre nos expériences esthétiques et nos sentiments épistémiques. Donc ce que dit Sylvia, c'est, donc je cite, « vouloir savoir quelque chose pour lui-même ». Donc c'est intéressant de constater que Sylvia reprend la formulation que Levinson utilise et beaucoup d'autres pour caractériser l'expérience esthétique désintéressée. « Vouloir savoir quelque chose pour lui-même »,« vouloir faire quelque chose simplement parce que c'est intéressant », cela fait partie de la nature humaine. Donc la nature humaine est curieuse. L'autre citation, curieux, ben, comme Pascal Engel le note, évidemment, la curiosité peut renvoyer à une disposition, voire éventuellement un trait de caractère, ou peut renvoyer à une activité, comme quand on explore un environnement en étant curieux. Donc là, c'est plutôt l'expérience de la curiosité qui m'intéresse, plutôt que la curiosité comme une disposition. Quand on dit, par exemple, en anglais, « curiosity killed the cat », la curiosité a tué le chat, c'est pas la disposition qui l'a tué, c'est l'activité d'explorer son environnement de façon imprudente, par exemple. Mais quand je dis, par exemple, « la curiosité est un vilain défaut », là, la curiosité renvoie à une disposition. La deuxième citation est tirée d'un article récent d'une psychologue et d'une philosophe que vous connaissez bien sans doute dans ce séminaire aussi, qui est Joël Proust, et donc qui, avec Louise Goupil, ont rédigé un article sur la curiosité, qui est d'ailleurs très intéressant, dans lequel elles écrivent ceci, je cite, les explorations guidées par la curiosité se produisent, alors je l'ai traduit, hein, c'est sans doute imparfaitement traduit, c'est un article en anglais, se produisent quand les agents recherchent des informations qui leur seront utiles pour maximiser leur capacité à apporter des réponses appropriées. Mais elles ajoutent, alors là on dit que ce n'est pas désintéressé puisqu'on parle d'utilité, mais les auteurs ajoutent, dans un avenir qui peut être déterminé ou indéterminé. C'est-à-dire, je peux explorer mon environnement parce que je sais que l'environnement va me rapporter quelque chose dans un avenir proche. Par exemple, je cherche un gîte pour m'abriter et j'explore mon environnement. Ça, ce n'est pas de la vraie curiosité, de la curiosité véritable. La curiosité véritable, c'est quand j'explore mon environnement sans savoir à quoi ça va me servir. Peut-être ça va me servir, mais je ne le sais pas au moment où j'explore mon environnement. Et dans ce dernier cas, c'est l'objet de la parenthèse ici, auquel cas on pourrait dire qu'il recherche l'information pour elle-même, for its own sake. Et là, vous voyez qu'on retrouve cette expression censée caractériser la curiosité comme l'expérience esthétique. Il peut sembler en effet que lorsque nous manifestons notre curiosité, nous nous engageons dans un comportement exploratoire visant à acquérir des informations pour elle-même, et non pas ou pas nécessairement parce que nous savons qu'elles vont nous rapporter quelque chose. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous lisez l'article de Louise Goupil et Joël Proust, vous constaterez que pour elles, et je pense qu'elles ont raison, la curiosité n'est pas un comportement propre à l'espèce humaine. C'est un comportement qu'on retrouve chez certains animaux. Et on a pu montrer que, par exemple, des souris sont capables d'explorer leur environnement, même quand elles n'ont pas faim, même quand elles n'ont pas de raison indépendante d'explorer leur environnement. Ça, évidemment, il ne s'ensuit pas automatiquement que les souris sont capables de curiosité désintéressée, mais en tout cas, ça peut être un indice pour l'établir. Dans certaines circonstances, bien sûr, il peut être utile de nous montrer curieux. Par exemple, parce que nous pourrions trouver un trésor caché dans notre environnement, mais la curiosité semble nous motiver intrinsèquement, indépendamment de l'utilité de son objet. Si l'on suit cette ligne de pensée, la curiosité ne diffère pas essentiellement de l'expérience esthétique. L'une et l'autre apparaissent comme désintéressées. C'est-à-dire, l'une et l'autre appréhendent leur objet pour eux-mêmes, et non pas parce que l'objet est représenté comme utile. Si c'est le cas, l'argument du désintéressement, c'est moi qui fais ce bruit, pardon, doit être rejeté. Sa validité logique n'est pas en question, bien entendu, donc il a la bonne forme, mais il n'est pas sain, c'est-à-dire la seconde prémisse des deux, les sentiments épistémiques ne sont pas désintéressés, serait fausse, au moins dans le cas de la curiosité, de sorte que la vérité de la conclusion ne peut pas être établie sur la base de l'argument. Il existe pourtant un moyen de sauver l'argument en précisant la notion de désintéressement sur laquelle il repose. À y regarder de plus près, la curiosité n'est pas véritablement désintéressée. Certains auteurs, alors réduisent la curiosité à un simple désir de connaître, hein, libido scienti, scienti, pardon, Pascal Angèle aussi a... Alors, je ne sais pas si tu défends cette position ou la position selon laquelle la curiosité est une émotion et un sentiment et pas un désir, hein, parce que dans la littérature, il y a une controverse pour savoir si la curiosité peut être réduite à un désir. Alors, si on réduit la curiosité à un désir de savoir, et si le contenu du désir, hein, qui concerne la connaissance, est conceptuel, il devient difficile d'attribuer la curiosité à des animaux qui, éventuellement, des animaux non humains, qui éventuellement n'ont pas le concept de connaissance. La souris peut manifester de la curiosité, mais il n'est pas clair que la souris ait le désir de connaître, si par désir de connaître, on veut dire que la souris a une certaine conception de ce qu'est la connaissance. Pour cette raison et d'autres, certains auteurs considèrent que la curiosité n'est pas un désir au sens propre, mais quelque chose qui ressemble plus à une expérience affective, ou en tout cas à une expérience qui a une dimension motivationnelle intrinsèque. Alors, je ne vais pas m'engager dans ce débat. Moi, je penche plutôt pour dire que la curiosité n'est pas un simple désir, mais dans tous les cas, en réalité, ce qu'on peut dire, et sans trop de problèmes, je pense, c'est que la curiosité implique, quelle que soit la conception que vous en avez, elle implique le désir, peut-être en un sens un petit peu large, le désir de connaître ou la motivation d'améliorer sa compréhension d'un objet ou de l'environnement. Donc ce que je propose ici, c'est d'utiliser une certaine notion de désir suffisamment large pour s'appliquer également, pour s'appliquer en fait à toute attitude cognitive ou affective, hein, toute, à l'égard de l'objet, toute émotion, sentiment ou toute expérience qui a une dimension motivationnelle. Ce qui distingue la curiosité d'autres expériences ou activités intéressées, c'est que le désir qui la définit est fondamental, basique si vous voulez, dans le sens où il n'est pas dérivé de désirs concomitants ou d'autres états motivationnels. Un être véritablement curieux explore son environnement spontanément, et non pas parce qu'il a faim ou qu'il souhaite le faire pour des raisons indépendantes, par exemple retrouver les clés qu'il a perdues. Donc il y a bien une différence, si vous voulez, parmi les expériences intéressées entre la curiosité et par exemple, l'expérience qui me fait représenter ce verre d'eau en termes de son utilité pour étancher ma soif. Mais dans tous les cas, il y a bien un désir qui est impliqué dans l'attitude. Donc la curiosité représente bien son objet comme un moyen de satisfaire un désir, même s'il est fondamental, comme dans le cas comme c'est le cas pour la curiosité. Or, représenter un objet comme un moyen de satisfaire un désir, c'est le représenter sous l'aspect de son utilité, même si celle-ci renvoie au but même de l'expérience. La curiosité est donc bien intéressée. À ce titre, tous les sentiments épistémiques s'avèrent être intéressés dans la mesure où ce sont des expériences affectives qui implique donc des désirs au sens large qui m'intéressent ici. Par conséquent, la prémisse des deux, finalement, peut être maintenue. Les sentiments épistémiques ne sont pas désintéressés, ils sont effectivement intéressés dans la mesure où ils impliquent un désir pour l'objet sur lequel nous exerçons notre curiosité. Est-ce à dire que l'argument du désintéressement peut être maintenu? Évidemment, ça dépend de la prémisse, la première prémisse. L'expérience esthétique est-elle désintéressée? Le problème, enfin, un problème en tout cas liminaire, c'est que les objets des expériences esthétiques sont souvent représentés selon leur rapport à des désirs divers, réels et possibles. Si je donne un exemple. Alors, j'ai quelques exemples que j'ai déjà donnés, hein, je m'en excuse. Alors, je prends souvent des exemples tirés de l'art contemporain parce que la structure de ces œuvres est sans doute épurée et me permet de les décrire plus directement, mais c'est tout à fait contingent et j'aurais pu prendre d'autres exemples bien sûr. Mais prenons un ready-made de Marcel Duchamp. Ici c'est un ready-made de 1915. On le voit mal, mais c'est le ready-made dans sa situation d'origine apparemment. C'est une pelle qui est suspendue. Qui est suspendu au plafond. In Advance of the Broken Arm. Donc effectivement, c'est une œuvre d'art, enfin, faisons l'hypothèse qu'il s'agit d'une œuvre d'art, qui présente une simple pelle. L'appréciation esthétique de cet objet, si on considère qu'on peut apprécier esthétiquement cet objet, je pense que Duchamp lui-même ne serait pas d'accord, parce qu'il avait une conception de l'expérience esthétique plutôt critique, mais je pense qu'il avait tort. L'appréciation esthétique de cet objet exige que nous le représentions comme facilitant l'action pour laquelle il a été conçu à l'origine. C'est-à-dire, il faut reconnaître cet objet comme une pelle. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la notion d'affordance. C'est-à-dire, je vois l'objet comme quelque chose qui facilite, qui est une affordance pour pelleter, qui facilite l'action de pelleter. Si nous ne le faisions pas, c'est-à-dire si nous ne représentions pas l'objet comme facilitant l'action de pelleter, nous passerions à côté de l'intention artistique de Duchamp. C'est par hasard que Duchamp a utilisé des outils dans un contexte institutionnel artistique. Or, si notre expérience esthétique représente l'objet comme un moyen de satisfaire un désir possible, et c'est bien ce qu'elle doit faire si elle doit rendre justice à l'intention artistique de Duchamp, cette expérience est intéressée finalement, puisqu'elle représente en partie au moins l'objet comme un moyen de satisfaire un désir possible, à savoir celui de pelleter. Par conséquent, la première prémisse ne peut pas être maintenue non plus. Alors pour sauver encore une fois l'argument du désintéressement, il y a plusieurs stratégies évidemment sont possibles. L'une d'entre elles consiste à restreindre la notion de désintéressement au désir réel et non pas seulement possible du sujet de l'expérience. Nul ne niera que nous pouvons apprécier le ready-made de Duchamp, apprécier esthétiquement, même si nous ne ressentons aucun désir de nous servir d'une pelle. Certains psychologues considèrent, ou neuropsychologues considèrent que, effectivement, lorsque nous voyons cette pelle, des neurones canoniques s'activent en nous qui correspondent à des schémas moteurs que nous activerions également si nous utilisions réellement la pelle. Hein, ce n'est pas des neurones miroirs parce que je ne vois pas d'action, mais ce sont des neurones canoniques parce que je perçois quelque chose qui. En termes d'un programme moteur, d'un schéma moteur. Et donc, pour certains auteurs, il y a quelque chose comme un désir de me servir d'une pelle quand je vois une pelle, comme une pelle. Bon, je suis pas d'accord avec ça, mais peu importe, de manière générale, même si nous ne ressentons aucun désir, nous n'avons pas besoin de ressentir un désir de nous servir d'une pelle quand on voit le ready-made de Duchamp, il reste que l'expérience esthétique est associée à de nombreux désirs réels, y compris d'ailleurs des désirs épistémiques. Un objet esthétique nous laisse rarement indifférents et suscite en nous une multitude de réponses affectives, positives ou négatives, qui peuvent varier au cours de notre interaction avec lui. Y compris d'ailleurs des réponses affectives qui ont trait à la familiarité de l'objet. C'est un objet familier qu'on nous présente dans un contexte peu familier, par exemple. Et donc, il y a des évaluations épistémiques qui sont en jeu dans mon appréciation esthétique du ready-made. Souvent dans la littérature, la notion de désintéressement dans le domaine esthétique, elle est critiquée au motif qu'elle implique que l'expérience esthétique serait quelque chose comme une forme de contemplation pure, un peu à la Schopenhauer, hein, où toutes les émotions sont mises hors circuit d'une certaine manière. Évidemment, ce n'est pas la conception de l'expérience esthétique que la plupart des auteurs, contemporains en tout cas, ont aujourd'hui. Au contraire, l'expérience esthétique implique toutes sortes d'activités, de réponses affectives diverses. La question est de savoir si ces activités, ces réponses, rendent l'expérience esthétique intéressée et en quel sens. À ce stade, nous pourrions admettre que l'expérience esthétique implique divers désirs en tant que partie propre, mais qu'elle n'est pas elle-même définie en termes de désir, ce qui l'associerait à un but spécifique. Qui dit désir dit effectivement un but qui, lorsqu'il est atteint, réalise le désir. La curiosité a un but épistémique, qui est de recueillir des informations sur l'objet. peut-être pas toutes les informations, mais un certain nombre d'entre elles. Une fois ce but atteint, la curiosité est satisfaite. Hein, on dit que, oui, j'ai regardé dans le tiroir, ma curiosité a été satisfaite. Et la curiosité s'éteint, dans ce cas, d'elle-même. En revanche, l'expérience esthétique ne semble pas avoir de but ou d'objectif épistémique ou autre. Elle peut s'estomper et disparaître, si par exemple l'objet finit par nous lasser, mais il n'est pas certain qu'elle puisse être satisfaite. En ce sens, elle peut être véritablement désintéressée. Mais l'expérience esthétique est-elle réellement dépourvue de but ? Elle n'est certainement pas passive, mais elle présente, ou semble présenter, un profil motivationnel caractéristique. Mais l'expérience esthétique est-elle réellement dépourvue de but ? Elle n'est certainement pas passive, mais elle présente ou semble présenter un profil motivationnel caractéristique. Selon la formule célèbre de Kant dans la Critique de la faculté de juger, paragraphe 12, nous nous attardons à la contemplation du beau parce que cette contemplation se fortifie et se reproduit elle-même. Fin de citation. Comme le dit Jean-Marie Schaeffer, l'expérience esthétique est autotélique, c'est-à-dire qu'elle n'a d'autre but qu'elle-même. Telos, le but. À ce titre, elle s'apparente au jeu qui, dans les termes de Jean Piaget, témoigne, je cite, d'une orientation centripète dans la mesure où le sujet prend plaisir à exercer ses pouvoirs et à se sentir cause. Fin de citation. À Piaget parle du jeu, pas de l'expérience esthétique, qui est autotélique. Nous pourrions donc suggérer que l'expérience esthétique se définit par le désir fondamental qu'elle soit maintenue, pour ainsi dire, de l'intérieur. Donc finalement, il y a bien un désir, si vous voulez, qui est moteur dans l'expérience esthétique, mais c'est un désir réflexif, d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est le désir de se maintenir ou de se fortifier, comme dit Kant, ou de se reproduire. À l'instar de la curiosité, l'expérience esthétique aurait un but épistémique, ou à tout le moins cognitif, et serait satisfaite dans certaines conditions, en l'occurrence si elle se maintient effectivement elle-même dans le temps. À nouveau, si on a cette conception de l'expérience esthétique, à nouveau, la prémisse D1 doit être rejetée, car l'expérience esthétique est intéressée, puisqu'elle implique un désir, comme la curiosité au sens large, même si elle ne l'est pas intéressée, de la même façon que les sentiments épistémiques, qui ne sont pas autotéliques. La curiosité n'est pas autotélique. Le but de la curiosité, ce n'est pas de se renforcer elle-même. On peut discuter de ce point, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, cette suggestion d'après laquelle l'expérience esthétique se définit par un désir fondamental, mais aussi autotélique, cette suggestion donc repose sur l'hypothèse selon laquelle le profil motivationnel apparent de l'expérience esthétique résulte d'un désir de la maintenir. Comme nous allons le voir à présent, il existe cependant une autre perspective possible qui marque plus clairement le contraste entre l'expérience esthétique et les activités autotéliques comme le jeu. L'expérience esthétique se maintient effectivement elle-même, mais pas parce qu'elle vise à se maintenir. Elle se maintient plutôt parce que son objet présente une certaine tension, apparemment irrésoluble, entre familiarité et étrangeté. Donc j'aborde maintenant la deuxième partie de l'exposé. L'un des thèmes récurrents de l'esthétique expérimentale, au moins depuis les travaux fondateurs de Daniel Berlin, à peu près au milieu du siècle dernier, est que la préférence esthétique est une fonction de variables telles que la familiarité et l'étrangeté. Alors, Berlin parle en fait de variables collatives. Et les variables collatives, selon lui, comprennent la nouveauté, l'effet de surprise, la complexité, l'ambiguïté, la perplexité. Donc il y a une liste un peu à la Prévert ici en réalité. Il y a une liste qui comprend des propriétés éventuellement objectives, des propriétés qui relèvent plutôt de l'expérience. Mais ici, je me concentre sur un aspect de la thèse de Berlin, à savoir que la préférence esthétique, enfin, si on se concentre sur les variables collatives que sont la familiarité et l'étrangeté ou la non-familiarité, donc là, que la préférence esthétique serait une fonction de telle variable. Le célèbre modèle en U inversé, qu'on appelle aussi parfois en esthétique expérimentale la courbe de Wundt, prédit qu'un niveau modéré de familiarité sera préféré, ceteris paribus, évidemment, ça dépend du contexte, à une familiarité ou à une étrangeté excessive. Et ce principe-là, enfin cette courbe-là, fait écho à ce que Gustav Fechner appelait le principe du milieu esthétique. Un milieu au sens de middle. Un objet excessivement familier devrait, alors si je me concentre ici sur les variables collatives, sur la familiarité comme variable collative, donc vous avez ici en abscisse à droite, plus on va vers la droite, plus le stimulus est familier, plus on est à gauche, moins il est familier, donc plus il est étrange dans un certain sens. Vous avez la préférence esthétique en ordonnée ici. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'un objet excessivement familier, donc tout à droite ici, devrait nous ennuyer. Parce qu'après tout, c'est vrai, si on a un objet, si on sait tout d'un objet, ben, il n'est plus très intéressant pour nous. Et encore une fois, ceteris paribus, il n'est pas très intéressant. C'est-à-dire, il n'est pas très intéressant en soi. Il y en a peut-être d'autres raisons de nous y intéresser. On peut revenir à des objets familiers, mais en soi, il n'est pas intéressant s'il est trop familier. À l'inverse, un objet excessivement peu familier, excessivement étrange, devrait se situer en dehors de notre domaine de considération. C'est-à-dire, si c'est trop complexe, trop peu familier, on ne voit pas trop l'intérêt de nous attarder, d'essayer de démêler les fils, et on va sans doute passer à autre chose, ceteris paribus, naturellement. On peut aussi avoir des raisons indépendantes de s'intéresser à un objet très complexe ou très peu familier. Dans les deux cas, donc, si on est trop à gauche ou trop à droite, l'objet ne serait pas intéressant en soi, ou du moins, nous ne le préférerions pas à des objets qui instancient une forme d'équilibre entre familiarité et étrangeté. Et évidemment, ce sont les objets qui se trouvent en haut de la courbe, ici. Dans cette formulation, la formulation qui vient d'être donnée, le modèle est manifestement trop simple, voire simpliste. Pour avoir le début d'une analyse adéquate de l'expérience esthétique, ou de la préférence esthétique en l'occurrence, il faut prendre en considération les attentes du sujet, y compris celles qui concernent le degré de familiarité de l'objet, c'est-à-dire la familiarité attendue d'un objet. Il n'y a pas de corrélation directe entre la familiarité objective et la familiarité subjective, c'est-à-dire le sentiment ou l'expérience de la familiarité. Une personne qui nous est objectivement très familière ne devrait pas provoquer un sentiment intense de familiarité, sauf si, parce qu'on tient sa présence pour acquise. Donc on n'a pas de sentiment de familiarité, puisque la familiarité est attendue dans ce cas. En revanche, dans un contexte où la familiarité n'est pas attendue, par exemple si on croise quelqu'un qu'on connaît bien dans un endroit tout à fait inattendu, sur une plage reculée, en vacances, eh bien là on peut effectivement avoir un sentiment de familiarité. L'affirmation selon laquelle un objet très familier ne sera pas préféré à un objet modérément familier parce qu'il est moins intéressant en soi est donc inexacte. Dans certaines situations. Alors, évidemment, Berlin est conscient de cette objection, mais il a une théorie des variables collatives, donc il n'y a pas que la familiarité, il y a d'autres variables qui entrent en jeu, y compris d'ailleurs les attentes du sujet, ce qu'il appelle l'effet de surprise, etc. Son modèle est un peu plus compliqué. Dans certaines situations, la familiarité excessive et inattendue de l'objet esthétique est suffisamment déroutante pour être intrinsèquement intéressante. Et là, je voudrais mentionner rapidement une étude neuroscientifique conduite par Edward Wessel, qui a montré l'impact d'objets esthétiques que des sujets ont indépendamment évalués comme étant très élevé sur une échelle de beauté, si vous voulez. On a demandé au sujet d'évaluer un certain nombre de peintures pas très connues. Il fallait que ce soit des peintures que les sujets ne connaissaient pas. Et on leur demande d'évaluer ces peintures en fonction de leur beauté subjective, évidemment. Ça variait d'un sujet à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est une étude neuro-psychologique, ce qui est intéressant, c'est que quand les sujets étaient confrontés à sous IRM, aux peintures, il s'agissait de peintures ici, aux peintures qu'ils avaient jugées comme étant très belles, ils avaient donné une note élevée sur l'échelle de la beauté, ces peintures déclenchaient une activité dans un ensemble interconnecté de régions cérébrales qu'on appelle le réseau du mode par défaut, qui est un peu le graal des neurosciences de ces 20 dernières années. Il s'agit d'un ensemble de régions qui sont associées à ce qu'on appelle le traitement auto-référentiel. On le considère, parfois il est décrit comme le fondement neurologique du soi, ou plutôt du sentiment de soi. Comme je ne sais pas très bien ce que ça veut dire fondement neurologique, je n'ai pas besoin de me commettre à cette description, mais ce qui est important, c'est que c'est une région qui est normalement, c'est un ensemble de régions plutôt, qui est normalement sous-activé quand nous sommes engagés dans des tâches orientées vers le monde extérieur. À l'inverse, quand on est dans un mode contemplatif, introspectif, quand on s'engage dans une forme de mind wandering, comme disent les psychologues, quand on laisse notre esprit vagabonder, là, le réseau du mode par défaut s'active. Alors, le corrélat phénoménologique du renforcement du traitement autoréférentiel, donc c'est comme si le cerveau il savait que le stimulus il avait un certain rapport avec soi-même. Alors, quand je parle de corrélat phénoménologique, c'est le corrélat dont parlent les auteurs eux-mêmes, qui sont des neuropsychologues, mais qui considèrent qu'en fait, le corrélat phénoménologique de cette suractivation de peintures jugées très belles correspond à l'expérience d'entrer en résonance avec une œuvre d'art, avec l'expérience d'être touché profondément par l'œuvre en question. Donc les auteurs écrivent ici, certaines œuvres d'art, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a peu d'objets dans le monde, peu d'objets extérieurs qui ont cet effet sur le réseau du mode par défaut, ce qui peut être interprété comme l'idée qu'il y a des objets esthétiques qui ont un statut très privilégié pour nous puisqu'ils déclenchent un sentiment intense de familiarité. C'est comme si ces objets ils avaient quelque chose à voir avec nous, avec notre personnalité profonde, etc. Donc les auteurs écrivent, je vous l'ai mis ici sur la diapositive, je cite, « Certaines œuvres d'art, bien que peu familières parce qu'il s'agissait d'œuvres d'art que les sujets voyaient parfois pour la première fois, peuvent être si bien adaptées à la constitution unique d'un individu qu'elles accèdent aux substrats neuronaux concernés par le soi, normalement inaccessibles à d'autres stimuli extrêmes. » Fin de citation. Donc vous voyez ici, je ne vais pas détailler toute l'image que vous voyez sur la droite et les graphiques, mais vous voyez ici que MPFC, c'est le cortex médial préfrontal qui est en lien avec le réseau du mode par défaut et qui s'active effectivement davantage quand vous avez du highly moving art. C'était la description qui correspondait à des peintures jugées soit très belles, soit des peintures qui particulièrement émouvantes. Dans ce type de situation, on peut se poser la question de savoir comment on peut être très ému dans un contexte expérimental. Mais en tout cas, apparemment, certaines personnes étaient disposées à dire que ces petites vignettes qu'elles voyaient étaient particulièrement belles, émouvantes pour eux. En tous les cas, dans ce type de situation, la familiarité est ressentie d'autant plus intensément qu'elle est inattendue, voire inexplicable, puisqu'un objet qui devrait être en principe peu familier, voire entièrement nouveau, nous donne une impression étrange de proximité, voire d'intimité. À l'inverse, l'affirmation selon laquelle un objet très étrange ou aucunement familier ne sera pas préféré à un objet modérément familier parce qu'il est moins intéressant en soi, est également inexacte. Dans certaines situations, le manque de familiarité, le défaut de familiarité ou l'étrangeté de l'objet esthétique domine, et pourtant nous pouvons le préférer à un objet modérément familier. C'est le cas apparemment du sublime. Des études neuroscientifiques, d'autres études, montrent que les scènes naturelles associées au sublime impliquent un traitement autoréférentiel réduit ou supprimés, en fait, dans des régions qui sont apparentées à celles qui ont été étudiées par Wessel. Donc il s'agit d'études par Ishizu et Semirzeki ici, qui nous expliquent, je cite, « La zone la plus manifestement désactivée », donc là, si vous voulez, c'est le... Les deux études ne se citent pas à ma connaissance, enfin, celle-là est plus ancienne, mais en fait, le résultat sont opposés et d'une certaine manière, en négatif, puisque dans le cas du sublime, le réseau du mode par défaut est sous-activé plutôt que suractivé. C'est comme si, finalement, quand on était devant le sublime, eh bien, sublime est tellement vaste, puissant, que on se sent peu de choses. Et donc, effectivement, les régions liées au sentiment de soi sont sous-activées. En tout cas, les auteurs écrivent, je cite, « La zone la plus manifestement désactivée, propre au niveau les plus élevés de l'expérience sublime. » Bon, il y a aussi une méthodologie, j'en ai parlé ailleurs, même ici, donc je ne vais pas revenir, il y a une méthodologie qui est peut-être contestable. Mais pourquoi contestable? Parce qu'on montre au sujet sous IRM des photographies de scènes naturelles très impressionnantes, mais ce n'est pas la même chose, effectivement, que d'être dans la nature et de faire l'expérience directe, si je puis dire, du sublime. En tout cas, ils ont tout de même, ces auteurs, obtenu des résultats, puisqu'ils écrivent que la zone la plus manifestement désactivée, propre au niveau le plus élevé de l'expérience sublime, du point de vue du sujet, était le gyrus ou giron frontal supérieur, une zone qui a été interprétée comme signifiant une suppression de la conscience de soi au cours de ce traitement. Fin de citation. Donc le corrélat phénoménologique de la réduction du traitement autoréférentiel est que les scènes en question nous semblent radicalement étrangères. En général, plus le manque de familiarité est inattendu, plus il est ressenti comme intense. Ce qui est très inattendu dans ce cas, c'est notre incapacité apparente à faire face à un objet que nous considérons pourtant comme réel. Le sublime est ressenti comme étant cognitivement incommensurable, par exemple trop grand ou trop puissant pour être appréhendé avec nos moyens épistémiques ordinaires, comme la perception et l'imagination. Il est important de noter qu'aucun des deux cas n'implique un objet esthétique totalement familier ou totalement étrange. Dans le cas de la beauté intense, l'excès de familiarité n'évolue pas vers une familiarité totale, puisqu'une certaine dose d'étrangeté persiste. Baudelaire avait raison. Il y a du mystère dans la beauté, du moins quand elle est ressentie intensément. Plus précisément dans le fait qu'un objet nouveau, qui pourrait être nouveau, est expérimenté comme s'il avait pour nous un statut privilégié. De même, dans le cas du sublime, le défaut de familiarité n'évolue pas vers une étrangeté totale, puisqu'une certaine familiarité persiste. Dans ce cas, le sentiment de familiarité résulte de l'espoir épistémique que nous disposons de ressources enfouies en nous qui devraient nous permettre de dépasser notre expérience initiale de l'incommensurabilité du sublime. Donc c'est une description un peu kantienne hein, du sublime comme quelque chose que on doit dépasser, si vous voulez, les limites de la perception et de l'imagination pour appréhender le sublime. On a le sentiment qu'on peut le faire. Les psychologues parlent d'un besoin d'accommodation, hein, c'est-à-dire que notre potentiel cognitif à l'égard du sublime peut être faible, mais pas nul. Et nous pouvons avoir le sentiment qu'au prix d'un réalignement cognitif, hein, ce que les psychologues appellent accommodation, nous pourrons représenter le sublime adéquatement à l'aide de catégories et de concepts inhabituels, comme le concept d'infini. Donc on fait l'expérience d'une limite des limites de nos capacités perceptuelles et imaginatives, mais on peut aussi prendre conscience que nous avons d'autres moyens de représenter le sublime. Le principe du milieu esthétique dont je parlais tout à l'heure prédit à juste titre que nous devrions préférer les objets qui ne sont ni totalement familiers, ni totalement inconnus. Il ne s'ensuit pas que nous préférons les objets idéalement équilibrés entre familiarité et étrangeté. Alors, je viens de donner deux contre-exemples où, respectivement, la familiarité domine et l'étrangeté ou la non-familiarité domine. Ce que le principe laisse dans l'ombre, en réalité, c'est la manière dont la familiarité et l'étrangeté interagissent dans l'expérience esthétique. L'hypothèse que j'aimerais promouvoir est que la préférence esthétique est liée à la capacité de l'objet à maintenir l'intérêt, notre intérêt pour lui dans le temps. Certains objets sont intéressants parce qu'ils suscitent une expérience qui se renforce elle-même. L'intérêt ordinaire ne se renforce pas lui-même. Hein, si je porte un intérêt sur un objet, ce n'est pas un intérêt qui est autotélique, hein, il ne se renforce pas lui-même, mais contribue à ce qu'on peut appeler la familiarisation de l'objet. Plus un objet est intéressant, plus nous sommes motivés peut-être à mieux le comprendre, à recueillir des informations à son sujet, mais tout cela finit par amoindrir notre intérêt initial. Donc l'intérêt va en décroissant. Par contraste, l'intérêt esthétique résiste à la familiarisation de l'objet, ou le retarde, ou la retarde. Comme j'ai essayé de le défendre d'ailleurs dans un article il y a quelques années. Nous restons intéressés par l'objet malgré le processus inévitable et spontané de familiarisation induit par sa considération même. Le fait même de considérer un objet nous pousse à finalement le familiariser, c'est-à-dire finalement en apprendre davantage et éventuellement à nous en détourner quand il devient trop familier ou d'ailleurs à nous en détourner quand il paraît trop complexe par exemple et on n'a pas le temps de le traiter. Donc la familiarisation avec l'objet esthétique n'éteint pas l'intérêt que nous avons pour lui. Une des sources de résistance à la familiarisation est la complexité ou la richesse informationnelle inattendue de l'objet. Un objet peut sembler simple de prime abord, mais s'avérer étonnamment difficile à familiariser, parce que son exploration même fait apparaître de nouveaux aspects qui renouvellent notre intérêt pour lui. Une autre source est la coexistence de plusieurs processus de familiarisation qui nous entraînent dans des directions opposées. Prenons l'exemple de certaines sculptures monumentales de Richard Serra, ici à gauche, qui sont légèrement inclinées. Nous pouvons ressentir une incongruité entre l'orientation verticale de la sculpture telle qu'elle est vue et telle qu'elle est ressentie par notre système vestibulaire. Quelque chose qui a été décrit par Jean-Pierre Changeux notamment et d'autres auteurs. Cette incongruité peut empêcher la familiarisation de la sculpture comme étant clairement verticale. En conséquence, nous pouvons ressentir une légère anxiété, comme si la sculpture allait s'effondrer. Et ici, on peut être tiraillé, si je puis dire, entre deux évaluations de la sculpture, comme d'un côté extrêmement solide, ce sont quand même des plaques de métal, et de l'autre fragile, comme si effectivement on avait l'impression qu'elles allaient nous tomber dessus. Bon, évidemment, c'est très superficiel, hein, mes descriptions, il faudrait en dire davantage. Pour ce qui concerne Bridget Riley, une artiste importante de l'art optique, ce sont donc ici une peinture, enfin là, c'est une reproduction d'une peinture, que nous pouvons percevoir comme visuellement très dérangeant. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la peine à focaliser, à porter notre attention sur une partie de la peinture. Nous pouvons ressentir une tension intéressante entre la simplicité relative des formes géométriques représentées et le désordre visuel que nous ressentons. La peinture représente des formes familières d'une manière inhabituelle ou étrange. Dans les deux cas, hein, dans le cas de Richard Serra et dans le cas de Bridget Riley, cette tension, ce sont des tensions de bas niveau, hein, mais évidemment ça les rend plus faciles aussi à décrire pour moi. Ces tensions-là peuvent finalement être résolues à un niveau plus élevé, peut-être conceptuel. Et éventuellement, de ce point de vue, l'œuvre d'art peut devenir légèrement, on peut s'en lasser ou s'en désintéresser, mais nous pouvons toujours trouver un intérêt supplémentaire à réfléchir à la nature de notre relation perceptuelle au monde. Par exemple, on peut se demander si le désordre que nous ressentons est dans l'objet ou en nous. C'est peut-être le type de question que peut provoquer la contemplation de cette peinture. Dans certains cas d'expérience esthétique, nous pouvons avoir l'impression de savoir comment procéder cognitivement à l'objet, mais nous découvrons que nous nous trompons. Dans d'autres cas, le processus de familiarisation est entravé ou interrompu parce que nous sommes perplexes quant aux moyens cognitifs requis pour appréhender l'objet. Les objets d'une grande beauté peuvent résister à la familiarisation parce qu'il n'y a pas d'explication facile de leur capacité, de leur pouvoir de nous toucher profondément. Les objets sublimes peuvent résister à la familiarisation parce que leur appréhension exige un effort cognitif important, éventuellement extraordinaire. Dans les deux cas, nous avons l'impression que les objets conservent une part de mystère, même quand cette impression est corrigée, éventuellement corrigée sur le plan conceptuel. Donc vous voyez que cette notion de résistance à la familiarisation, elle se réalise finalement dans des situations très différentes. Dans une situation où on a un excès de familiarité, de l'hyperfamiliarité, mais aussi dans des situations comme le sublime, où c'est l'inverse, nous avons un excès de non-familiarité, et donc nous avons un défaut de familiarité. En bref, l'idée selon laquelle l'expérience esthétique implique une certaine interaction entre familiarité et étrangeté contribue à expliquer pourquoi elle présente cette apparence d'autotélos, pourquoi elle semble s'auto-entretenir, parce qu'elle résiste précisément à la familiarisation. Les tensions entre la familiarité et l'étrangeté que les artistes manipulent si habilement peuvent déclencher un sentiment d'incertitude quant à l'attitude épistémique à adopter à l'égard de l'objet. Ces tensions peuvent conduire à une désorientation, une paralysie cognitive qui rend compte, au moins en partie, de la perplexité, de l'égarement, de l'étonnement que nous éprouvons dans de nombreux contextes esthétiques. Nous pouvons parler de suspension de l'action épistémique, non pas au sens où notre expérience est passive, au contraire, elle implique une activité épistémique parfois intense, mais au sens où elle ne présente aucune direction pragmatique claire. Il devrait maintenant être clair, les philosophes disent ça quand quand justement tout n'est pas clair, mais c'est de la rhétorique, que l'expérience esthétique n'est pas autotélique au sens où elle vise à se maintenir elle-même. L'apparence d'autotélos résulte en fait d'une interaction dynamique entre familiarité et étrangeté. Nous ne nous efforçons pas de maintenir notre expérience esthétique, mais elle se maintient d'elle-même, parce que l'objet présente une vive résistance à la familiarisation, une résistance suffisante. L'objet esthétique est intéressant en soi, mais les aspects qui le rendent intéressant varient au fil du temps. L'expérience qui en résulte est telle que l'objet est représenté indépendamment d'un but défini, épistémique ou autre. Une telle expérience nous arrête, selon l'expression de Jean-François Billéter, et nous donne l'occasion de réfléchir à notre relation cognitive au monde. Si l'analyse de l'expérience esthétique esquissée ici est sur la bonne voie, l'argument du désintéressement est à la fois valide et sain. Contrairement aux sentiments épistémiques comme la curiosité, l'expérience esthétique est atélique, sans son but spécifique. En particulier, elle n'est pas reliée à son objet par l'entremise d'un désir, même fondamental. Elle est donc désintéressée au sens strict, alors que la curiosité est désintéressée seulement au sens plus faible, où l'exploration curieuse n'a pas besoin d'être indépendamment motivée. Donc, en fait, vous avez ici un schéma dans lequel l'expérience esthétique, la curiosité et le jeu sont distribués différemment. On peut encore une fois poser la question de savoir si la curiosité est autotélique, je ne le pense pas, mais même si elle l'était, elle serait distinguée de l'expérience esthétique par le fait qu'elle a bien un télos, un but, même si ce but est défini de l'intérieur de l'expérience, si je puis dire. Alors, j'aborde la troisième partie qui sera plus courte, je vous rassure, mais je ne peux pas terminer sans envisager une dernière objection qui est d'importance à la thèse selon laquelle l'expérience esthétique est atélique. De nombreux auteurs considèrent que l'expérience esthétique est nécessairement évaluative, où les valeurs pertinentes, épaisses ou fines, une valeur épaisse serait l'élégance, par exemple, une valeur fine serait la beauté, ça peut dépendre du niveau d'abstraction de la propriété ou de la valeur, où les valeurs pertinentes sont spécifiques au domaine esthétique. On pourrait leur objecter que dans ce cas, elle ne saurait être atélique qu'elle viserait essentiellement une valeur esthétique plus ou moins spécifique, par exemple la beauté ou le sublime. Et si elle ne vise pas une telle valeur, il n'est pas évident qu'elle puisse être caractérisée d'esthétique au sens propre. Une réponse possible à cette objection consiste à rejeter purement et simplement la dimension axiologique de l'expérience esthétique. L'expérience esthétique, selon cette réponse, nous arrête et nous contraint à une suspension de l'action épistémique. Si vous voulez, c'est une forme de stupéfaction, de stupeur, avec une forte dimension épistémique. Ce n'est pas n'importe quelle forme de stupéfaction, de stupeur, mais n'implique aucune représentation de la valeur de l'objet. Une autre réponse, moins radicale, et qui a davantage ma sympathie, même si elle reste entièrement schématique pour ce qui concerne cet exposé, consiste à diviser pour mieux régner et à proposer une analyse componentielle ou stratifiée de l'expérience esthétique. Selon cette analyse, l'expérience esthétique implique plusieurs composantes ou niveaux cognitifs distincts, éventuellement des niveaux qui sont en dépendance unilatérale l'un par rapport à l'autre, au sens où le niveau 4 dépendrait du niveau 3, qui dépendrait du niveau 2, qui dépendrait du niveau 1. Le premier niveau, ce sont simplement les diverses expériences ordinaires qui sont déclenchées par l'objet esthétique. Nous devons donc les réponses perceptuelles, attentionnelles et affectives non esthétiques. Nous devons d'abord au moins percevoir l'objet et souvent y accorder son attention pour qu'il puisse déclencher en nous une réponse proprement esthétique. Donc c'est évidemment pas un niveau qui est esthétique au sens strict, il est proto-esthétique, mais c'est un niveau qui doit être évidemment qui doit être réalisé pour avoir une expérience esthétique. Le deuxième niveau, c'est celui qu'on a décrit jusqu'à présent, en fait. C'est le niveau où l'expérience esthétique s'auto-entretient et présente une apparence d'autotélos. C'est-à-dire, on a l'impression que l'expérience se renforce elle-même, mais comme on l'a vu, il n'y a pas vraiment de télos. Ce niveau implique une posture mentale spécifique que nous avons décrite comme véritablement désintéressée, puisque l'objet n'y est pas représenté comme un moyen de satisfaire, pas représenté en tout cas au niveau de l'expérience elle-même, comme un moyen de satisfaire un désir, même fondamental et autotélique. Il convient de parler de posture plutôt que d'attitude, car la posture esthétique, à ce niveau-là, n'a pas de condition de satisfaction. Il s'agit d'une manière d'être en relation avec le monde qui n'est pas intrinsèquement satisfaite ou non, mais qui se produit ou ne se produit pas. Ce niveau correspond à ce que j'ai appelé jusqu'à présent expérience esthétique. Il n'a pas besoin d'impliquer des valeurs esthétiques, mais seulement des propriétés esthétiquement pertinentes, pour reprendre l'expression de Bensenané, c'est-à-dire des propriétés qui contribuent à la mise en place d'une expérience esthétique, et notamment des propriétés épistémiques, comme on l'a vu, qui ont trait à la familiarité et à l'étrangeté de l'objet, mais qui ne sont pas elles-mêmes d'ordre esthétique. Les troisième et quatrième niveaux, le niveau de l'expérience évaluative esthétique et le niveau du jugement évaluatif esthétique, c'est le niveau où les valeurs esthétiques, si elles existent, interviennent au niveau du contenu de l'expérience ou du jugement. Au troisième niveau, l'évaluation esthétique ne prend pas la forme d'un jugement, mais celle d'une expérience éventuellement non conceptuelle, par exemple une émotion. Et on peut tout à fait ici reprendre l'intuition des auteurs dont je parlais au commencement, qui considèrent par exemple que l'émerveillement est impliqué dans toutes les émotions esthétiques. Mais en tout cas, l'émerveillement, ça peut être effectivement une attitude, une expérience qui intervient au niveau 3, au niveau d'une expérience évaluative esthétique. Le quatrième niveau implique, lui, des jugements esthétiques et donc des concepts de propriétés et valeurs esthétiques qui sont essentiels à une pensée ou un discours articulé sur les mérites et démérites esthétiques de l'objet. Plusieurs tentatives de réduire tel niveau à tel autre existent dans la littérature. La critique célèbre de George Dickey de la notion de posture esthétique, « aesthetic stance », peut conduire à la réduction du deuxième niveau au premier. C'est-à-dire, on va dire que ce qui est décrit comme une posture esthétique n'est en réalité que la perception, l'attention et l'émotion ordinaire. C'est évidemment pas une thèse que je défends, puisque je considère que la posture esthétique, elle implique des sentiments épistémiques, et pas seulement la perception, l'attention ou l'émotion de premier ordre, c'est-à-dire dirigée vers l'objet. On peut aussi affirmer que le troisième niveau se réduit au quatrième. L'évaluation esthétique intervient seulement au niveau du jugement. C'est seulement au niveau du jugement, par exemple, que les valeurs interviennent. sous la forme de concepts évaluatifs, enfin représentés par des concepts évaluatifs, mais on peut tout à fait défendre la thèse selon laquelle il n'y a pas d'expérience évaluative non conceptuelle. Il y a une thèse importante dans la philosophie des émotions qui considère que les émotions sont des présentations non conceptuelles de valeurs. À ce moment-là, effectivement, ça veut dire que le niveau 3, il est bien distinct, bien distingué du niveau 4. La thèse défendue dans cet exposé est simplement que le deuxième niveau est sui generis, c'est-à-dire qu'il y a une manière cognitive spécifique d'être en relation avec un objet esthétique, et elle est essentiellement différente des manières dont nous sommes habituellement en relation avec le monde. La qualification d'expérience résultante comme esthétique peut dépendre de l'existence ou non d'une évaluation proprement esthétique au niveau suivant. Une hypothèse de travail est que nous préférons les objets esthétiques qui résistent à la familiarisation. Nous les apprécions parce qu'ils sont épistémiquement stimulants et interrogent le cœur de nos interactions épistémiques avec le monde. Il ne s'ensuit pas que les valeurs esthétiques se réduisent à des valeurs épistémiques, mais seulement qu'elles dépendent de la capacité de l'objet à suspendre l'action épistémique. L'origine de l'intérêt et du plaisir que nous éprouvons au régime esthétique ne réside pas dans l'objet, mais au moins en partie dans la valeur que nous accordons à la relation épistémique spéciale que nous instaurons avec lui. Donc les niveaux 3 et 4 qui font introduire des valeurs dépendent en fait du niveau 2, c'est-à-dire dépendent de la capacité de l'objet à produire cet état dans lequel l'action épistémique est suspendue. Alors, petite conclusion, l'objectif de cet exposé était de décrire le rôle des sentiments épistémiques dans l'expérience esthétique. Bien que l'expérience esthétique ne soit pas elle-même un sentiment épistémique, certaines de ses principales caractéristiques peuvent être expliquées en termes d'interaction entre les aspects familiers et étranges de l'objet esthétique, modulés par les attentes contextuelles du sujet. Au cœur de l'expérience esthétique se trouve notre reconnaissance du fait qu'un objet résiste à la familiarisation et provoque la suspension de nos actions épistémiques à son égard. De nombreux auteurs ont observé que l'expérience esthétique est métacognitive, certaines d'entre elles en tout cas. Elle nous invite, l'expérience esthétique, ou certaines d'entre elles, et dans certains cas nous contraint à réfléchir à notre relation cognitive avec le monde. Les artistes manipulent la familiarité et l'étrangeté des objets, et comme le fait observer Alva Noé, brisent la transparence des expériences ordinaires. Un bon exemple, c'est la peinture de Bridget Riley, où effectivement, on est contraint à se poser la question de savoir d'où vient ce chimie dans la vision, comme le dit le capitaine Haddock dans les bijoux de la Castafiore, je crois. Le chimie dans la vision, c'est ce qu'on ressent quand on regarde ce type de... chez Tintin, c'était un téléviseur qui marchait en couleur, qui ne marchait pas très bien, si vous vous souvenez. Dans la même veine qu'Alva Noé, Patrick Cavanagh, un psychologue, a décrit certains artistes comme, je cite, « des expérimentateurs cognitifs qui exploitent leurs connaissances pratiques sur le système visuel pour produire des œuvres d'art esthétiquement convaincantes ». L'expérience esthétique n'est pas une invitation à ce que nous pourrions appeler la réflexion ordinaire. Les sentiments épistémiques qui contribuent à notre expérience du monde sont déjà d'ordre métacognitif ou réflexif, et comme nous l'avons vu, ils ne sont pas en eux-mêmes d'ordre esthétique, ils ne sont pas eux-mêmes esthétiques. L'expérience esthétique est plutôt une invitation à aller au-delà de l'expérience du monde en termes de but, y compris épistémique. Il s'agit d'un type particulier de réflexion qui est, ou du moins se présente, comme véritablement désintéressé, contrairement à tout sentiment épistémique. Voilà, en vous remerciant, et j'espère que je n'étais pas trop long.
Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.